À l'âge de 3 ans, j'ai perdu une petite sœur qui est décédée très jeune. Et ça crée un grand vide en moi, sans que je m'en rende compte réellement au départ, mais avec le temps. Et ce vide, j'ai toujours voulu le combler. Et puis, quand est arrivé le collège, ça a été pour moi une drôle d'épreuve. Parce qu'en fait, on me qualifiait de différents adjectifs pas très agréables, comme PD, pédale, chou-fleur et j'en passe, c'est des meilleurs. Et ça m'interpellait, je ne comprenais pas à ce moment-là pourquoi. Et c'était très douloureux, c'était une forme d'harcèlement, bon évidemment pas au sens le plus pire qui soit, mais tout de même, heureusement il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Et je suis retrouvé très seul durant cette période du collège. C'est vrai que c'est une période dure où les jeunes sont durs entre eux. Et ça a été très particulier. Et grâce à Dieu, ma grand-mère m'a offert un pèlerinage à Lourdes. Et durant ce pèlerinage, j'ai vraiment fait l'expérience de la présence maternelle de la Vierge Marie dans ma vie. Et ça m'a énormément touché. C'était presque physique, en fait, cet amour d'une mère. Et Jésus était très important dans ma vie, mais c'est vrai que la Vierge Marie avait une présence particulière, peut-être parce que justement j'avais besoin à ce moment-là peut-être de la présence d'une mère, d'une femme. Et ça m'a beaucoup aidé et à partir de ce moment-là, ce vide que je ressentais très souvent, ce vide métaphysique en fait, a été comblé par cet amour, par cette présence. Et c'est là où j'ai commencé à ressentir finalement l'appel du Seigneur à vouloir devenir prêtre. Et puis quand je suis arrivé au lycée, ça s'est mieux passé parce que les jeunes de cette époque-là étaient quand même beaucoup plus mûrs et j'avais trouvé ma place. Et j'ai rencontré un prêtre donc à Châteaudun qui finalement par cette rencontre m'a aidé à cheminer dans la foi et à discerner aussi l'appel du Seigneur. Et au bout de 5 ans, je suis rentré au séminaire d'Ars, donc pour faire une année de propédeutique et 2 ans de philosophie. Et quand je suis rentré, ça a été pour moi une sorte de ravissement spirituel, de joie, de bonheur. J'étais comme un poisson dans l'eau, sans mauvais jeu de mots avec mon nom de famille, mais j'étais vraiment à la place. Et puis, comme chaque année, on fait des retraites donc spirituelles. La retraite donc de fin d'année de propédeutique, donc de première année, je me suis retrouvé dans une retraite ignatienne, donc de discernement. Et ce jour-là, au début, j'étais super bien. Et très vite, il y a eu quelque chose, il y a eu une sorte d'expérience, de connaissance avec moi-même, où j'ai vraiment compris et réalisé que j'avais cette attirance, cette orientation sexuelle différente. Et pour moi, c'était un effondrement parce que j'étais paré, j'étais motivé, je voulais donner ma vie à Dieu, à l'Église, aller évangéliser à droite, à gauche. Enfin, voilà. Et là, d'un seul coup, cette vérité, cette réalité de moi-même venait contrarier tout ce que j'étais. Parce que bon, bah, c'était pas du tout quelque chose que j'appréhendais, que j'avais compris. Mais finalement, j'ai compris à quel point la nature humaine pouvait se mentir à elle-même. Parce que quand je fais des feedbacks sur mon expérience passée, je vois bien de nombreux signes qui auraient pu m'alerter. Et puis, au final, je suis tombé dans une grande dépression et l'année suivante, donc j'ai continué le séminaire et j'ai changé de père spirituel parce que le père spirituel que j'avais a dû partir. Et ce père spirituel, voyant que j'avais pas bien parce que j'ai fait une anorexie mentale, j'ai perdu 20 kilos en 15 jours, j'étais en terrible dépression, j'ai voulu voir un psychiatre sur le lieu. Et au final, j'ai senti que j'étais pas soutenu et comme j'étais au séminaire, c'était compliqué parce qu'il fallait que je sorte sans qu'on me voie, etc. Et j'ai arrêté les traitements, j'ai tout arrêté, ce qu'il n'aurait peut-être pas fallu faire. Et j'ai vraiment sombré à tel point que je ne savais plus du tout quel sens donner à ma vie, je savais plus. Donc je m'accrochais et j'avoue que j'ai pensé plusieurs fois au suicide. Et À un moment donné, j'ai rencontré un prêtre exorciste via une rencontre avec un père spirituel. Et là, il a voulu prier sur moi. Et à la fin de la prière, il m'a dit: « Vous êtes en fait infesté par le démon. » Et s'en est suivi pendant 2 ans, 2 ans de prière d'exorcisme en fait, où très régulièrement, mon père spirituel m'emmenait dans un endroit et je subissais, parce que pour moi, c'était vraiment une violence terrible. De se sentir déjà différent, de plus avoir de sens dans sa vie, et en plus, soi-disant, être possédé par le démon. Et tout ça a fait que les années passent, que j'ai réussi à tenir je ne sais pas comment. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait une retraite de guérison, donc qu'on appelle un peu aujourd'hui les thérapies de conversion. J'essaierai de revenir rapidement à la fin sur ce sujet, qui est très important. Et je pensais vraiment redevenir, j'allais dire normal, parce qu'à l'époque, pour moi, je ne comprenais pas, tout ça, c'était nouveau. Et on ne parlait pas beaucoup encore de ce sujet, même si c'était fin 90, début 2000. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire mon service militaire, puisque je faisais partie des derniers à faire le service. Et comme j'avais pas envie de faire... me retrouver dans une caserne, puisque tous ceux qui y passaient, ils disaient: on ferme les casernes, on passe le balai toute la journée, c'est pas très intéressant. Je suis parti avec la DCC et je voulais aller en Israël ou au Liban. Mais bon, j'ai pas eu le choix, je me suis retrouvé en Corée du Sud, donc enfin, l'autre bout. Et là-bas, j'ai vite sombré parce que il n'y avait pas de mission précise pour moi, je me suis retrouvé seul et en fait, comme le dit l'adage, on a beau parcourir la terre, on reste toujours sur sa monture, avec les problèmes nous suivent. Et donc j'ai été rapatrié sanitaire et je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrique de Clamart. Et pendant un certain temps, donc j'ai vu des choses que je n'aurais jamais pu voir autrement. J'ai vu qu'il y avait des gens bien plus mal que moi, même si j'étais pas dans un bon état. Et parce que l'armée était responsable de moi aussi à ce moment-là, donc elle pouvait pas me lâcher dans l'aventure, sachant que si je me suicidais, ils étaient responsables. Donc ils voulaient voir si tout allait bien. À partir de là, j'ai annoncé à mes parents que j'arrêtais le séminaire. Et puis s'en est suivi une période de grosse dépression, mais là j'ai été pris en main, en charge par des médecins, j'ai eu des traitements qui m'ont aidé, et petit à petit j'ai commencé à m'apprivoiser comme... l'histoire du petit prince à m'aimer, parce que ce que j'ai compris, c'est que le Christ, s'il dit aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire d'abord d'apprendre à s'aimer tel que l'on est, et de s'accueillir tel que l'on est malgré nos différences. Et j'ai appris avec le temps à faire ce chemin-là, mais j'avais tellement souffert dans le milieu religieux, que je n'arrivais plus à vivre ma foi, je n'arrivais plus à rentrer dans une église sans avoir des angoisses, sans avoir du stress, sans être mal. Donc, je m'en suis vraiment éloigné. Et en plus, cette idée, de concilier cette, différence avec, la foi catholique est toujours très compliquée, ce qui a fait que j'ai pris un grand écart et j'ai fait un grand écart. Parce qu'à partir de là, j'ai commencé à m'assumer, mais à m'assumer en écoutant les sirènes LGBT. Et là, j'ai commencé à rentrer dans le mouvement, de manière pas, j'allais dire, engagée au sens militant virulent, mais du moins, je rentrais dans cette idéologie-là. Pour moi, l'Église avait rien compris. La parole de Dieu n'était pas comprise, on l'interprète mal, enfin bon, tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur le sujet, j'étais tout à fait d'accord. Et puis, à partir de là, j'ai commencé donc à connaître, comme Marie-Madeleine, peut-être de façon plus trash de mon côté, c'était moins courtisan, mais la débauche, puisque bon, j'ai multiplié les conquêtes. Sexuel, sans lendemain, cherchant l'amour, il y a des chansons comme ça, et il vient pas. Et bon, j'ai fait des petits travails parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie, le sens que je donnais, l'orientation que je donnais au départ était plus du tout la même. Donc j'ai travaillé, je sortais, je vivais, je me sentais libre. Ouais. Sauf qu'on n'a pas, voilà. Au fur et à mesure de ça, je me suis dit, je vais certainement reprendre mes études parce que, bon, là, je passe plein de détails parce que, mais la Providence a toujours œuvré malgré ma descente. Les rencontres ont fait que je connaisse quelqu'un qui m'oriente vers une école de commerce. Et donc, j'ai passé un concours et j'ai repris, après avoir réussi le concours, une école de commerce à Paris pour travailler dans les ressources humaines. J'ai obtenu ce diplôme. Et là, j'habitais un peu à Paris, plutôt à Courbevoie, et durant cette période-là, j'avais tendance à vouloir revenir dans la foi, mais c'était très compliqué. Et j'ai aussi beaucoup profité des plaisirs du corps. Et puis finalement, j'ai déclaré une maladie auto-immune, à partir de ce moment-là. Donc, quand j'ai eu mon diplôme, je suis retourné chez mes parents. Pour trouver ce qu'on savait pas ce que j'avais, donc il a fallu 2 ans pour savoir ce que j'avais. Et puis finalement, on a su, j'ai pu avoir un traitement et j'ai cherché du travail. Et puis je me suis retrouvé à trouver un job à Paris dans l'unité d'ingénierie de maintenance du parc nucléaire français, en fait, qui est lié à EDF, donc dans les ressources humaines. Et là, je suis arrivé à Paris et là, ça a été super. Je vais être m'installer, j'ai trouvé un chouette appartement et ça a été le boulevard qui s'est complètement réouvert, où là j'ai fait tout et n'importe quoi, mais le sexe, la drogue, partout, enfin tout, je passe tous les détails, et à tel point que je me perdais totalement. Un jour, donc je résume, hein, bien sûr. Je reçois un appel de mon médecin qui voulait me voir et il me dit, j'ai quelque chose à vous dire, et il m'annonce que je suis séropositif. Donc là, évidemment, je m'en doutais un petit peu. Ça a été un peu un réveil et un choc en même temps, mais ça n'a pas été assez puissant parce que très vite les mauvaises habitudes sont revenues. Donc à côté de tout ça, quand même, je recheminais un petit peu plus vers la foi. J'avais fait une rencontre d'une personne que j'amenais à la foi, en fait, et lui m'emmenait aussi de retour à la foi. On se soutenait l'un l'autre. Et puis, à partir de là, à un moment donné, le 31 juillet, 31 décembre, pardon, 2015, ma mère m'appelle et elle était. Sa voix, je m'en rappellerai toute ma vie parce que. Elle m'annonce en fait que ma petite sœur, qui avait 29 ans, 2 enfants, a été tuée d'un accident de voiture. Là, tout s'est effondré en fait. Tout s'est effondré parce que j'étais très très proche d'elle. Je me suis mis à pleurer, j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et en fait, c'est à partir de là qu'il y a eu une grande transformation et une grande libération. Parce que pour moi, mais aussi pour toute ma famille, parce que mon frère avait complètement abandonné la foi, il est revenu totalement. Moi, quelques temps après, je me suis retrouvé dans une église à Notre-Dame-de-Victoire. À la fin de la messe, après avoir communié, j'ai vécu vraiment une expérience mystique qui est difficile à décrire en fait. Je revenais un peu dodelinant après la communion et je me suis senti vraiment bizarre, un peu comme ce que tu décrivais tout à l'heure. C'était vraiment ça, j'avais vraiment la sorte de vision de bête atroce, des chaînes qui m'encerclaient. Je me sentais très 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 mal et à un moment donné, je me dis, mais je réalise que j'avais communié, quoi, que j'avais reçu Jésus. J'ai crié vers lui. Viens à mon secours, et à partir de ce moment-là, enfin, j'ai pas crié dans l'église non plus, hein. J'ai crié intérieurement, et là, en fait, j'ai eu l'impression que toutes les chaînes tombaient, et tout est parti, et puis j'ai ressenti une paix et un amour inconditionnel, et là, tout a commencé, en fait. C'est-à-dire que là, ma foi a vraiment commencé là, même si je pense qu'avant elle était là, mais il y a une sorte d'étape de vie, et j'ai compris, c'était comme évident que tout ce que dit la parole de Dieu et l'Église sur ce sujet était en fait une question de liberté et de vérité. et pas simplement pour embêter les gens. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé vraiment de suivre totalement le Christ. Et donc je vis la chasteté dans la continence. Et je me suis totalement donné au Seigneur dans cette optique-là pour suivre sa parole, parce que c'est vrai que c'est un chemin exigeant pour les personnes homosexuelles, et c'est difficile de faire comprendre ça à une personne si elle n'a pas rencontré le Christ déjà, et même quand elle l'a rencontré, il faut du temps. C'est comme un enfant, on ne lui donne pas de la viande, on lui donne du lait avant de... C'est pareil, il y a vraiment des étapes, et accueillir la personne telle qu'elle est au moment où elle est, dans la situation où elle est. Et c'est vrai que c'est fondamental, parce que c'est libérateur, et en fait, moi, ça m'a vraiment ouvert une porte incroyable de paix, de joie, de bonheur, inestimable, en fait. C'est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et je pense qu'en fait, c'est dans un acte de confiance. Et c'est vrai que l'exigence, elle est là aussi pour les personnes et les couples homosexuels, parce qu'il est demandé de pas vivre, de pas utiliser la contraception chimique, par exemple. Et c'est la même exigence. La chasteté, elle est vécue par tous. La chasteté dans la continence, ça doit être vécu par les personnes homosexuelles. Mais on a tous des exigences de vie. Mais en fait, c'est pour nous ouvrir un amour beaucoup plus grand et beaucoup plus fort qui nous dépasse. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai compris. Et voilà, c'est la première partie de mon témoignage. Après, dans le livre, justement, la deuxième partie, ça fait écho à une exégèse, en fait. Le Seigneur a voulu que je fasse des études, donc j'ai utilisé mes connaissances et puis pour travailler et montrer en quoi et pourquoi l'Église a-t-elle raison sur ce sujet. Pourquoi c'est libérateur, et pourquoi cette invitation à vivre cette dynamique et cette dimension de la chasteté et de la continence était en fait le chemin de la vérité pour suivre le Christ. Donc j'explique tout ça après avec des formes à propos de la théologie du corps, donc je reparle un peu de Jean-Paul II, mais aussi sur la symbolique. Voilà, et donc je développe tout ce sujet pour amener à faire comprendre que c'est un chemin effectivement exigeant, mais c'est un chemin d'amour. Et ça peut se faire que par étapes, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est évident. Mais c'est vraiment le chemin de la liberté et de la vérité. Et je crois que aujourd'hui, on a trop tendance à pas dire les choses, et à tort, parce que à côté de ça, c'est tous les mass médias et LGBT finalement, et puis d'autres qui prennent la place, et ça conduit des jeunes et des situations qui sont catastrophiques en fait. Et il y a énormément de souffrance. Et je pense qu'un chemin et une parole vraie, charitable et vraie, ne peut que conduire à une libération et à une réelle rencontre amoureuse avec le Christ.